Capítulo 8. Los espectros del museo.
¿No decías que no creías en los fantasmas?
M'a répondu Pelayo d'un air moqueur. Au réveil, je lui avais tout de suite parlé de l'homme en noir qui m'espionnait. Il m'avait écouté avec un sourire condescendant. Peut-être regrettait-il de s'être laissé aux confidences la veille et voulait-il revenir à son rôle pitoyable de macho arrogant.
No era un fantasma, exclamé. Era un hombre, el mismo que vi en el viaducto. Miraba hacia mi ventana. Era real.
Los fantasmas son reales.
J'ai lancé un soupir de découragement.
¿Dónde estaba Remy?
Al despertarme, no la había encontrado en casa.
¿Por qué me dejaba sola con ese chico desequilibrado?
O peut-être que c'était moi qui étais déséquilibrée et que l'homme en noir n'était qu'un produit de mon imagination. Si seulement l'or avait été là avec moi. Peu après, lorsque Pelayo m'a proposé de poursuivre notre tour del terror au Museo del Prado, j'ai refusé. Je lui en voulais de ne pas prendre au sérieux la présence de l'homme en noir. Et puis, il était temps d'arrêter avec l'au-delà et de consacrer la journée à des activités normales, comme faire du shopping ou manger des tapas.
Pelayo était terriblement déçu.
« No puedes irte de aquí sin haber visitado el Prado », a-t-il insisté, comme s'il tenait à faire cette visite bien plus que moi. « Además, el aire acondicionado del museo funciona de maravilla. En la radio han anunciado 40 grados a la sombra esta misma tarde. »
J'ai fini par céder. La nuit, les cauchemars avaient recommencé, comme pour me rappeler que je n'étais pas encore allée au bout du mystère de Madrid. Et Pelayo avait l'air si malheureux de mon refus qu'il me faisait de la peine, sans compter qu'il commençait en effet à faire chaud, très chaud. 2 heures plus tard, j'étais devant Las Meninas, dans une grande salle ovale parfaitement climatisée. En sortant de la maison avec Pelayo, je n'avais pas pu m'empêcher de regarder dans la rue autour de moi, anxieuse à l'idée d'apercevoir l'homme du viaducto. La toile de Velázquez m'a fait oublier toutes mes peurs. J'en avais vu des reproductions, mais je n'étais pas préparée à ce que l'original soit si saisissant. De loin, les figures grandeur nature semblaient aussi réelles qu'un groupe de personnes figées dans un gigantesque selfie. Quand on s'approchait, elles disparaissaient comme par magie dans un embrouillamini de taches de couleurs. C'était comme l'un de ces rêves qui nous semblent vrais pendant le sommeil et qui se désagrègent au réveil dès qu'on essaie de les mettre en mots.
« ¿Ves a ese personaje a la derecha, detrás del perro y los enanos ?» me preguntó Pelayo.
J'ai regardé du côté du chien et des nains.
« Nadie sabe quién es. A los otros personajes los han identificado. Velázquez, las sirvientas de la reina, la infanta Margarita, el aposentador José Nieto, los bufones del palacio. En cambio, ese hombre de pie es un misterio. Algunos piensan que Velázquez no lo pintó, que es un fantasma que ha decidido irse a vivir en el cuadro y de vez en cuando sale de él. Los vigilantes lo llaman Manolo. Muchos han visto a Manolo paseándose por las galerías del museo o en la cafetería tomándose un carajillo.
Parfois, je me demandais si ce n'était pas Pelayo lui-même qui inventait toutes ces histoires. Si tel était le cas, il ne manquait pas d'humour, malgré la gravité un peu ridicule avec laquelle il les racontait. L'idée d'un spectre qui aurait décidé de s'incruster dans le chef-d'œuvre de Velázquez, au milieu de tous les serviteurs royaux, était assez loufoque. Surtout si ce spectre qu'on appelait affectueusement Manolo avait aussi l'habitude de sortir de temps en temps du tableau pour se promener dans le musée et aller boire un carajillo, un café avec du cognac, l'une des boissons préférées de Remy.
Seguimos recorriendo las galerías del Museo del Prado. Había tantas obras magníficas que una no sabía dónde mirar. En un momento dado, levanté la vista de un cuadro y no vi a Pelayo. ¿Dónde se habría metido?
Je m'étais éloignée des circuits les plus touristiques. Je me trouvais toute seule au milieu des toiles flamandes, peintes par des artistes aux noms plus imprononçables les uns que les autres. Je me suis arrêtée devant la traversée du Styx de Patinir,
un tableau mystérieux qui montrait Charon dans sa barque, transportant une âme du paradis vers l'enfer. « Al pasar la barca, me dijo el barquero. » Tout d'un coup, j'ai senti une présence dans mon dos. Quelqu'un, j'étais tenté de dire quelque chose, respirait près de moi, et son souffle était à la fois saccadé et léger. Un courant d'air froid hérissait la peau de ma nuque. Manolo ? L'homme en noir ? J'aurais aimé regarder en arrière et en finir avec ses soupçons, mais j'étais paralysée par la peur. Quand j'ai finalement réussi à surmonter mon effroi et à me retourner, la salle derrière moi était vide. Étais-je en train de devenir folle ? Quelques instants plus tard, Pelayo a réapparu. « ¿Dónde estabas ? » Fui un momento al baño y luego no te encontraba por ninguna parte. ¿Nos vamos? Ai-je proposé, encore sous l'effet de la peur. ¿Qué dices? Nos queda por ver al rey de los fantasmas. Le roi des fantômes, c'était Goya. Selon Pelayo, il était le premier à avoir peint de vrais fantômes et non pas de simples fictions pour faire peur aux imbéciles. Los otros pintores pintaban para el rey, para la iglesia, para cualquiera que les diera dinero, m'a expliqué Pelayo, en frottant son pouce et son index pour évoquer l'argent. Goya, con más de 70 años, se encerró en su casa, la Quinta del Sordo, y se puso a decorar los muros para sí mismo. Se dice que celebraba misas negras y ceremonias de brujería allí dentro. Las pinturas negras, más que pinturas, son exorcismos. J'étais habituée aux fanfaronnades de Pelayo, mais devant les pinturas negras de Goya, j'ai dû reconnaître que je n'avais jamais rien vu de semblable. Les sorcières, las brujas, les vieux et les démons de Goya n'étaient pas des humains, mais ils n'étaient pas non plus des monstres comme ceux qui peuplent le Seigneur des Anneaux. On avait le sentiment de les avoir déjà croisés dans des cauchemars oubliés. Ni morts, ni vivants, ni réels, ni imaginaires. Pelayo avait raison. Un vrai fantôme devait ressembler à ça, à quelque chose qui pouvait surgir et disparaître à tout moment. Je n'avais jamais vu un vieux déchirant le cadavre d'un bébé comme dans Saturno devorando a su hijo. Mais j'avais vu cette même folie meurtrière briller comme un éclair dans les yeux des gens en colère. J'ai frémi devant le sabbat des sorcières ou deux vieillards mangeant de la soupe. Mais le choc le plus violent m'attendait au bout de la dernière salle du sous-sol qui abritait la série de Goya. J'ai vu un tableau vide. C'était quand même louche, un tableau vide. Et alors, dans un coin de la toile, en dessous des touches grises qui faisaient penser à un ciel nuageux et des touches jaunâtres qui évoquaient vaguement la terre, j'aperçus la tête d'un chien. Le tableau s'appelait « Perro semi-hundido », qu'on aurait pu traduire par « chien à moitié englouti ». J'ai entendu à nouveau les aboiements de mes cauchemars. « ¿Qué hace el perro, papa ? ¿Qué hace el perro ?» avais-je répété pendant mon sommeil. Le chien regardait vers le ciel vide. Il attendait une aide qui ne viendrait pas. Il s'enfonçait petit à petit dans le sable sous ses pattes, et moi j'avais l'impression de m'enfoncer avec lui. « ¿Qué te pasa ?» me preguntó Pelayo, al ver mi cara lívida. « ¿Tienes miedo de un perro ?» Je me suis tournée vers lui. « Yo ya he estado aquí !» ai-je crié, bouleversée.